Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Aujourd'hui, je reçois Bertille, qui est coach sportive. Bonjour Bertille.
Bonjour Sophie.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va plutôt bien.
Raconte-moi, tu es très jeune, mes auditeurs doivent le savoir, elle n'a que 27 ans. D'habitude, je reçois plutôt des femmes qui ont fait des burn-out. Je pense que Bertille n'a pas eu le temps.
Oui et non.
Raconte-nous, comment as-tu choisi de te mettre à ton compte et de devenir coach sportive?
En fait, à la base, moi j'ai un diplôme dans le paysage pour être paysagiste écologue, donc rien à voir avec le sport.
Clairement.
Sauf que dès la première fois où j'ai posé mes fesses sur la chaise pour les cours, je me suis dit non, je suis pas à ma place.
Ah.
Mais je suis un peu têtue, donc j'ai quand même fini mon année pour avoir une licence. Et puis après, je suis partie faire fille au père en Angleterre pendant 9 mois, parce que je savais vraiment pas ce que je devais faire en fait. Donc je voulais pas faire un métier simplement alimentaire, et je préférais vivre une aventure. Aventure qui était incroyable d'ailleurs. Et puis en fait, c'est venu plus ou moins comme ça, parce que j'étais pas sportive en fait à la base. J'ai commencé le sport pendant l'année où j'ai fait ma licence dans le paysage. Et j'ai tout de suite aimé ça, j'ai tout de suite commencé à acheter des bouquins, suivre des gens qui étaient coachs, donner des conseils, etc. Et quand je suis allée en Angleterre, c'est presque la mère de ma famille d'accueil qui m'a dit... Mais toi, tu devrais être prof de yoga, prof de sport, je sais pas. Tu sais bien expliquer, quand je te vois faire les devoirs avec les filles, t'es assez pédagogue. Et puis en plus, t'es toujours fourré à la salle, en fait. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, oui, pourquoi pas, mais c'était pas moi, la moi d'avant, en fait. Mes parents me voyaient pas comme quelqu'un de sportif. Donc quand je suis rentrée, j'ai pas trop osé leur dire que j'avais envie de faire ça comme projet. Mais j'ai fait un service civique parce que je savais que dans ce service civique, il y avait une partie qui s'appelait le projet professionnel où j'allais pouvoir faire des stages et rencontrer justement des professionnels du métier. Chose que j'ai faite. Et j'ai rencontré aussi des conseillers d'orientation qui m'ont tous dit, mais si c'est ce que vous avez envie de faire, allez-y. Donc j'ai commencé à m'inscrire pour faire du coup le PPGEPS, activité de la forme. Et c'est comme ça que je suis devenue coach sportif. Donc j'ai autant une partie en structure, parce que je suis aussi coach sportif en salle, qu'à mon compte.
Un petit détail, tu dis que tu n'étais pas sportive. Qu'est-ce qui fait qu'en licence, tout d'un coup, tu dis je vais faire du sport?
Justement, je ne sais pas trop. En fait, je pense que j'ai commencé un peu comme la plupart des filles de mon âge à l'époque pour avoir des abdominaux tracés. Donc je commençais un peu à m'entraîner chez moi. Et puis un jour, j'ai un ami qui m'a dit viens en salle avec moi. Il m'a fait souffrir pendant cette séance. J'ai adoré ça. Me demandez pas pourquoi. Et finalement, j'ai continué. Et ça fait maintenant 7 ans que je m'entraîne. Et je crois que j'ai... jamais loupé une séance, sauf cas particulier.
Est-ce que tu es restée à cette idée de « je veux les abdos » ou il s'est passé plein d'autres choses qui ont fait évoluer ton regard?
Voilà, non. Quand on commence la musculation, c'est ce que j'aime dire à mes coachés. Là, tu commences, tu as envie de perdre de la masse graisseuse et dans 3 mois, on en rediscute et tu voudras des abdominaux, des épaules, un dos. On en reparlera, mais les objectifs évoluent tellement dans ce sport et c'est ce qui fait que c'est cool parce qu'à la fois, on a toujours envie d'évoluer. Mais en même temps, c'est hyper frustrant parce qu'on n'atteint finalement pas vraiment son objectif parce qu'on en a toujours un nouveau derrière.
Donc toi, tu es partie du premier objectif, je veux les abdos. Mmh. Et est-ce que tu partages avec les uns et les autres et comment l'évolution de tes objectifs?
Là, aujourd'hui, j'ai envie aussi de m'entraîner pour ma santé, enfin être en forme, parce que comme je suis coach sportif en salle, je donne des cours collectifs aussi, il faut que je sois en forme. Et puis parce que c'est ma vitrine, mine de rien. Même si on peut être coach sans avoir un physique particulier, mais n'empêche que ça attire quand même les potentiels clients. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Et pour tester les différentes méthodes de travail ou les différentes, on va dire, programmations qu'on peut avoir pour que je puisse bien l'expliquer après moi-même à mes coachés. Mais si je devais parler d'objectifs personnels, je dirais prendre de la masse musculaire principalement.
Prendre de la masse musculaire, tout de suite, moi, dans mon imaginaire, c'est oulala, bodybuilding dans le coin.
Ouais, très souvent, c'est ça. J'ai beaucoup de femmes en suivi de coaching qui me disent « moi, je veux prendre de la masse musculaire, mais attention, je ne veux pas devenir comme les gros bonhommes, tout ça. » Et en fait, Ben, moi, ça fait 7 ans que je m'entraîne et je ressemble toujours pas à un gros bonhomme. Ça met du temps, on s'entraînera jamais comme ces gros bonhommes, on prendra jamais le même type de produit, on n'aura jamais la même alimentation. Et être musclé, ça veut pas forcément dire être très très musclé, très développé musculairement ou faire du bodybuilding. Être musclé, c'est simplement développer sa masse musculaire. Mais déjà, pour une femme, ça sera toujours moins qu'un homme. Donc, j'ai pas envie de devenir un homme en muscu, ça n'existe pas. Et puis, justement, je trouve que le fait de développer de manière harmonieuse ses muscles, ça peut, dans une belle robe d'ONU, par exemple, donner quelque chose de très féminin.
L'harmonie.
Ouais.
Tu parles d'harmonie. Est-ce que cette harmonie, elle va au-delà du fait de donner des conseils de coach vraiment sportif pur et dur dans le mouvement physique? Est-ce que tu apportes d'autres choses?
Oui, pour moi, le coaching, ça ne s'arrête pas juste à fais tel exercice et ça te donnera ça. En fait, pour atteindre son objectif, à mon sens, il faut que ça soit complet, à la fois sur la nutrition, par exemple, donc ce qu'on va apporter comme énergie à son corps, grâce à la nutrition, mais aussi sur tout ce qui va être les à côté, ce que j'appelle l'hygiène de vie, donc la gestion du stress, la gestion du sommeil, comment on sent au niveau des émotions. En tout cas, dans mon coaching en distanciel pour mon auto-entreprise, c'est vraiment quelque chose de très complet, où on va retrouver beaucoup de choses et on a une communication qui est quasiment 7 jours sur 7 avec les filles que j'ai en coaching.
Ton auto-entreprise, elle est principalement en ligne?
Elle est que en ligne, ouais.
Elle n'est que en ligne.
Ouais.
D'accord.
C'est que du online.
Comment tu arrives à accompagner un mouvement de corps avec une personne qui est à distance? Parce que autant quand on est en salle, on peut aller positionner le corps, mettre une main pour redresser un mouvement qui est faux. Mais en ligne, on fait comment?
Alors déjà, ils ont un programme sportif avec le nom des exercices, le nombre de répétitions qu'ils doivent faire, le nombre de séries, le temps de récup, etc. Toujours associés à cet exercice, ils vont retrouver une vidéo qui les ramène vers YouTube, qui leur permet de voir comment on doit exécuter l'exercice. Ensuite, la personne va en salle, elle s'entraîne et elle peut filmer ses exercices et me les envoyer, comme ça moi je les corrige. Et finalement, le fait de faire ça déjà, elles-mêmes, elles se rendent compte de leurs erreurs parce qu'elles peuvent se re-regarder derrière. Et puis moi, j'ai un regard sur ce qu'elles font. Mais par contre, ça c'est vraiment un travail qu'on doit faire en équipe. Si moi j'ai pas de retour, ben, je peux pas faire de correction en fait. Et c'est parfois la complexité du suivi distance.
Oui, surtout j'imagine que les femmes qui font appel à toi, au départ, ne sont pas très très à l'aise avec leur corps. Et que donc, il faut que elles t'envoient une vidéo d'elles. C'est un grand pas.
Oui, il y en a pour qui ça a été très long. Il y a des filles pour qui la phase de départ, ça a duré 4, 5, 6 mois avant qu'on se lance vraiment dans le coaching. Parce que le temps qu'elles me fassent confiance, qu'elles comprennent l'importance du coup de se filmer, que moi je vais pas les juger sur ce qu'elles sont physiquement mais ce qu'elles font en termes d'action, là ça peut mettre un peu de temps. Mais par exemple, je pense à Christelle, c'est une de mes premières coachées, elle m'envoyait aucune vidéo et aujourd'hui elle m'envoie toutes ses séries, tous ses exercices, donc des fois j'ouvre ses messages, j'ai 23 vidéos quoi.
Ah oui, quand même.
Alors qu'au départ, elle n'envoyait rien du tout. Et ça c'est, enfin, elle a énormément progressé à ce niveau-là. Et pour moi, c'est une des plus grandes victoires, ce genre de choses.
Dans la formation que tu as eue donc pour devenir coach sportif, il y a un volet nutrition, d'après ce que j'ai compris, ou c'est toi qui es venue l'ajouter?
Il y a une partie nutrition qui est évoquée rapidement, parce que déjà, le BPJEPS, c'est une formation qui est faite en 10 mois, donc qui est très courte et condensée. Moi, je pense que c'est une formation qui devrait se faire en 2 ans, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre et on n'applique pas assez sur le terrain, à mon sens. Donc, on a des prémices sur l'alimentation. Par contre, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait. Donc, je me suis toujours renseignée via des livres, des podcasts, des gens que j'avais dans mes proches. Et cette année, je suis une formation sur la nutrition du sportif.
Tu continues en formation continue,
oui,
en permanence, pour améliorer tes compétences et les apporter à tes coachés.
C'est ça.
Tu as dit que tu travaillais aussi en salle, donc tu as gardé une part de salariat?
Oui, j'ai gardé une part de salariat pour le moment, oui.
Alors c'est pour le moment parce que financièrement il faut que ça tienne, ou alors c'est pour le moment parce que tu y trouves autre chose en plus?
Un peu des deux en vrai. On va dire que c'est quand même plutôt alimentaire parce que j'ai vraiment envie de développer mon côté auto-entreprise qui me plaît beaucoup plus que le coaching en salle. Cependant, je m'entends très très bien avec mes adhérents, mes collègues dans la structure dans laquelle je travaille. Et en fait, c'est très différent. Ce que je fais dans mon aspect salariat et ce que je fais dans mon coaching en distanciel, c'est vraiment deux choses différentes. Donc ça m'attriste quand même de quitter cette part de salariat parce que j'aime ce que je fais là-bas. Mais c'est pas ce qui me fait vibrer vraiment.
Et alors, tu as choisi de les accompagner en distanciel, mais tu envisages une partie en présentiel ou pas? Et comment?
Non, pour être 100% honnête, parce que moi j'ai envie de pouvoir travailler de n'importe où, Donc si j'ai envie de pas avoir un endroit où m'ancrer, j'ai envie de pouvoir le faire. Et j'ai déjà fait du coaching à domicile et j'en fais avec certains de mes proches ou des gens qui, par exemple, j'ai une personne qui est handicapée moteur, donc là, elle peut pas se déplacer, par exemple. Enfin, elle pourrait, mais c'est un peu plus complexe de venir en salle, par exemple. Donc là, je me déplace. Mais pour moi, c'est une perte de temps. Dans le sens où bah déjà je dois y aller et revenir, donc ça m'enlève quand même pas mal de temps dans ma journée. Et j'ai pas un accompagnement complet comme je peux avoir sur du distanciel. C'est-à-dire que les personnes que j'ai sur du distanciel, je vais les suivre sur l'alimentation, sur leur hygiène de vie et sur leur entraînement. Elles peuvent me contacter quand même elles veulent, mais les personnes qui sont à domicile, c'est pas le cas. Le souci, c'est que si on commence à mettre un mix des deux, ça serait possible. Je pense qu'il y a des coachs qui le font, mais ça revient à des tarifs qui sont assez élevés. Et je suis pas sûre que la cible de personnes avec qui je souhaite travailler ait les moyens de se le permettre.
Alors justement, qui cibles-tu dans tes accompagnements ?
Principalement des femmes, même si j'ai quand même quelques hommes et c'est bien, j'aime bien. Mais c'est principalement des femmes avec qui j'ai envie de bosser, des filles qui se sont un peu mises de côté, qui ont oublié un petit peu de prendre du temps pour elles ou qui n'ont pas le choix en fait de ne pas prendre de temps pour elles et leur faire comprendre qu'en fait à quel point c'est important d'avoir ces moments-là, de prendre soin de soi au travers de son physique mais aussi de sa forme, de sa santé pour après pouvoir en donner aux autres en fait. Et souvent, c'est des femmes comme ça qui font appel à moi parce qu'elles ont besoin d'être, pour une fois, c'est souvent ce qu'elles disent, j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi et pas à l'inverse, en fait.
Si j'ai bien suivi, vraiment, tu t'occupes d'elles sur beaucoup d'aspects, puisque tu disais, il y avait la nutrition, mais il y a aussi une part bien-être.
Bien-être, t'entends quoi par là ?
Ben justement, je t'ai dit trois volets tout à l'heure et j'ai un doute sur le troisième volet.
Hygiène de vie, surtout. En fait, elles ont un carnet de suivi, donc elles doivent remplir tous les soirs un petit peu comment ça s'est passé. Et dedans, on va retrouver est-ce qu'elles ont vu leur famille, est-ce qu'elles ont vu leurs proches, est-ce qu'elles ont un bon sommeil, est-ce qu'elles se sentent stressées, est-ce qu'elles ont pris du plaisir à l'entraînement. C'est plein de petites choses comme ça et plein de petits aspects que j'aime appeler levier, parce qu'en fait, c'est des choses qui parfois on peut faire le meilleur entraînement, avoir la meilleure alimentation, mais si derrière on est stressé ou on se sent pas bien côté perso, bah ça pourra jouer sur l'atteinte des objectifs.
Donc tu interviens aussi dans une véritable écoute des personnes avec qui tu travailles.
Oui, c'est un vrai suivi. Je pense qu'il y a des fois où j'ai eu des conversations d'une heure et demie avec des filles sur des questions comme j'ai pas du tout confiance en moi, je vais jamais y arriver. Ouais.
Je le sais parce que je te suis sur Instagram, que tu partages toi ton évolution, tes questionnements, tes ratés aussi, ce qui est plutôt plaisant parce qu'on se dit, ben voilà, la perfection n'existe pas. Tu partages aussi un peu des témoignages. Je suis très admirative que ces femmes acceptent de témoigner parce que avouer sa vulnérabilité. Comment tu accompagnes la vulnérabilité, justement ?
C'est une très bonne question, parce que je n'avais jamais remarqué que je faisais ça, en fait. Alors, il y a beaucoup de filles qui ont d'abord refusé. Après, concernant les témoignages, aujourd'hui, je pense qu'elles se sentent bien mieux par rapport à avant, donc elles acceptent que ce chemin se fasse, en fait, et que du coup, elles puissent participer, à guider d'autres personnes à faire le même chemin, on va dire. Je pense qu'il y a de ça. Après, les accompagner, c'est un travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Hein. C'est vraiment, des fois, je reçois des photos des filles à la salle. Elles sont bien, elles me disent « Ah, j'ai bien les cuisses bien formées, j'ai les biceps qui sont en train de pumper », ce genre de choses. Et puis deux jours après, je reçois « Non, mais là, ça va pas du tout, j'ai pris 300 grammes ». Donc ouais, un jour ça va, un jour ça va pas. Et faut travailler avec ça. C'est une habitude à prendre, j'ai envie de dire. En fait, je pense que je leur dis ce que moi, j'aurais envie d'entendre à ce moment-là, parce que moi aussi, ça m'arrive. Donc, je pense que c'est comme ça que je les accompagne. Et puis, il y a toujours cette question que je répète très souvent. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Qu'est-ce qui t'aiderait à avancer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mettre en place qui t'aiderait à aller mieux ? Et c'est à ce moment-là qu'elles peuvent justement me dire ça. J'essaye d'être assez ouverte, en fait, pour qu'elles puissent se sentir libres de me dire tout ce qui va et surtout ce qui ne va pas.
Sais-tu combien de personnes tu peux accompagner en tout, en même temps ?
Là, j'ai déjà une quinzaine de personnes en suivi en ligne. Je pense que si je réduis mon temps de travail en salariat, je peux monter jusqu'à 20, 30, voire plus en fait.
D'accord, parce que c'est quand même très prenant.
Oui, c'est très prenant, oui.
Mais les exercices, par contre, il y a une plateforme, il y a quelque chose. Comment tu fais pour envoyer les exercices ?
En fait, c'est là, actuellement, j'utilise Sheets, donc un document sur Drive, qui est partagé avec les filles avec qui je travaille. Donc, si je fais une modification, elles reçoivent la modification. Et si elles me rentrent une note dans le document, moi, je peux l'avoir aussi. Et comme je disais tout à l'heure, donc il y a le nom de l'exercice lié avec, des vidéos sur YouTube. Donc là, justement, je suis en train de moi-même créer mes propres vidéos pour qu'elles puissent m'avoir moi en visuel avec une voix off qui explique l'exercice. Mais ça, c'est pareil, c'est énormément de travail, donc ça va mettre un petit peu de temps. Et c'est comme ça qu'elles peuvent justement voir un petit peu. Après, je réfléchis à d'autres plateformes, mais il faut d'abord que je me forme sur ces plateformes-là.
Donc tu as dit depuis 2021 ?
Ouais, mais j'ai pas commencé tout de suite en coaching distance.
T'as d'abord fait un temps certain
oui.
En tant que salarié.
Je pense, je dirais un an et demi. Donc là, j'ai dû commencer vraiment à m'y mettre avec Brindis de Folie, je dirais en janvier de cette année. Même si j'avais déjà commencé avec quelques-unes de mes proches, en fait. Principalement, j'en parlais pas trop. Mais en janvier de cette année, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'y mettre.
Pourquoi t'as appelé ça Brindis de Folie ?
Ça fait très longtemps que je m'appelle comme ça. Alors, mes parents, ils aimaient bien brindis, myrtilles, tous ces mots-là, en fait. Sauf que je pouvais pas m'appeler brindis, c'était pas possible. Et ils ont trouvé Bertie, qui allait bien. En fait, il y a ce brin de folie qu'on retrouve chez moi, mais qu'on voit pas forcément tout de suite au premier abord. Et je trouvais que c'était bien. Brindis de folie, ça m'allait bien. Et bon, aujourd'hui, ma mère, elle aime bien dire « t'es plus vraiment une brindis », donc bon, voilà. Mais avant, j'étais vraiment très, très fine, très presque maigre, en fait. Donc voilà, brindis de folie, c'était pas mal.
En fait, ton corps s'est modifié parce que t'as pris de la masse musculaire.
Tout à fait.
Partant d'un petit corps de petite brindis, si j'ai
ouais,
bien
compris. Exactement.
Enfin, petite brindis, t'es grande, hein, quand même, de taille, mais je veux dire,
c'est ça.
Cette notion quand même de brindis.
Ouais.
D'où le nom. Et là, c'est un petit brin de folie. De toute façon, je pense qu'il faut un brin de folie pour se mettre à son compte.
Ouais, quand même, je pense aussi.
Est-ce que tu as été formée pour justement devenir auto-entrepreneur ? Comment tu as pu faire la démarche d'être auto-entrepreneur ? Est-ce que tu as eu un accompagnement spécifique ? Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué ? Est-ce que tu es soutenue par, je sais pas, un réseau, quelque chose ?
Alors, je n'ai pas été formée à proprement parler. Par contre, moi, je suis quelqu'un de très angoissé, il faut le savoir. Donc, je suis allée rencontrer la chambre du commerce, des BGE, ce genre de choses. Et j'ai eu plein de conseils. À droite, à gauche. Et j'ai une coachée qui est une proche de ma maman, justement, qui, elle, a monté plein de choses, de business différents, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, et qui m'aide encore, en fait, parce que je l'ai en coaching à domicile, et c'est une des rares personnes que j'ai gardées à domicile. Je pense que c'est cette dame-là qui m'aide à rester en auto-entreprise, parce qu'il y a des fois où je me dis, mais c'est trop dur, je vais jamais y arriver. Et dès que je la vois et qu'on discute un petit peu de mon projet, ça m'aide vraiment. Je pense que c'est en partie grâce à elle aussi que je me suis lancée. Et puis aujourd'hui, comme je fais partie de l'association Madame, il y a ça aussi, il y a plein de fois où je suis allée à des réunions et je me suis dit, en fait, ça va, je suis dans la même galère que plein d'autres personnes. C'est pas si dur, c'est juste que pour l'instant, il y a des étapes que j'ai pas encore passées. Et de voir que d'autres sont un peu dans la même situation, m'apportent des conseils, et me disent non, continue, c'est bien ce que tu fais. Parce que je trouve qu'on se sent un peu seul, en fait, quand on est en auto-entrepreneuriat. Les gens, ils comprennent pas forcément tant qu'ils l'ont pas vécu. Et de pouvoir en discuter avec des personnes qui l'ont fait ou qui sont en train de le faire, ça fait toute la différence.
Dans les gens qui t'entourent, est-ce que tu as eu des... Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Stop, je rentre dans le droit chemin. Sois une bonne salariée. Est-ce que tu as eu des gens qui sont dit ouais, « tu prends trop de risques » ou au contraire, tu as été soutenue ?
Au départ, quand j'ai voulu changer de voie du tout au tout, j'en avais parlé à mon père un peu innocemment. J'avais dit, peut-être que je deviendrai coach sportif. Et il m'avait dit, ah non, je te vois pas du tout là-dedans. Fais plutôt un truc dans l'animation avec les enfants si tu veux, mais pas ce genre de choses. Et en fait, mes parents, ils ont vu que c'était quelque chose qui comptait vraiment pour moi. C'est juste que j'ai toujours été quelqu'un de timide à la base. Quand on me voit en cours, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Hein, mais quand je suis dans ma tenue de coach sportif. Mais j'étais assez timide et j'avais peur d'assumer en fait que moi j'aimais la musculation parce que j'avais peur que ça soit mal vu par mes proches, ma famille, le fait que je tienne une diète. Donc quand je vais en repas de famille et que je dis non, désolé, je mange pas ça ou je mange pas ci ou je fais attention, etc. Et en fait, ça a mis un peu de temps, pas forcément que ça soit accepté parce que j'ai jamais eu la sensation de pas être soutenue par ma famille. Mais par contre, aujourd'hui, quand je vais chez mes parents, ils me disent... j'ai fait ça à manger, est-ce que ça va pour ta diète, ton alimentation ? Est-ce que c'est ok ? Est-ce que t'en auras assez ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux... Et même mon père, maintenant, se fait suivre par moi.
Ah oui ?
Oui, voilà. Donc finalement, je pense que j'ai été bien soutenue quand même.
La transformation physique de sa fille a prouvé à ce papa qu'il y avait des choses à faire pour lui aussi, c'est ça ?
Peut-être. Après, je pense qu'il le fait aussi surtout pour sa santé principalement. Mais ça fait plaisir de dire qu'il me fait confiance surtout.
Est-ce que tu peux t'adresser à tous les âges à l'heure actuelle ou tu aurais tendance à plus être sur un âge parce que cet âge-là, tu maîtrises mieux, tu connais mieux. Enfin, quand tu abordes ça ?
Alors moi, j'ai la chance d'avoir travaillé, de travailler actuellement dans une structure où on fait beaucoup de problématiques et de pathologies au niveau de la santé, avec tout type d'âge. Donc c'est quelque chose qui m'a attirée par le passé. aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler avec des gens qui sont pas forcément jeunes, mais dans mes âges ou un petit peu plus âgés, mais qui pourraient avoir encore la performance à donner, ou en tout cas en ont envie. Non pas que plus on avance dans l'âge et moins on peut le faire, mais c'est plus la niaque et l'envie de le faire. On a moins cette... Enfin, à mon sens, hein, je trouve, pour avoir rencontré pas mal de personnes, j'ai entendu plus d'une fois, de toute façon, à mon âge, maintenant, je peux plus vraiment faire grand-chose. Ben, moi, je veux être là juste avant. Là, oui, on se dit, ok, c'est bon, je peux encore me transformer, j'y vais.
Je vois. Peut-être aussi une question de motivation. Enfin, je pense que quelqu'un qui vient pour sa santé et qui est très motivé par sa santé, peut-être te dira pas, à mon âge, je veux pas.
Ouais, je pense qu'il y a aussi une question de motivation, une question de discipline. Et puis, des fois, c'est pas facile parce que je pense qu'il faut revoir certaines choses. Comment expliquer ? Il y a certaines croyances, certaines actions, on se dit... Bah, de toute façon, ça, je pourrais plus jamais le faire. Et on remet un petit peu en cause comment la personne, elle l'est à l'instant T. Mm. Et parfois, les gens, ils ont trop d'ego, peut-être, pour se dire ok, ça me fait mal de l'entendre, mais c'est pour mon bien, en fait.
Oui, j'imagine.
Ouais.
Pas facile de se faire critiquer, oui. Même quand on est venu là pour ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, bon, ça fait pas très, très longtemps que tu accompagnes des gens, mais quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant ?
J'ai envie de dire, il y en a beaucoup là qui me viennent en tête. Est-ce que je peux en parler de plusieurs ou pas ?
Bien sûr.
Alors déjà, j'ai accompagné, et j'accompagne toujours, une jeune fille qui a mon âge. Et c'est une fille qui avait vraiment pas du tout confiance en elle. Mmh. Quand je l'ai vue la première fois, en fait, je l'avais pas vue. C'est pour dire à quel point elle était timide, réservée. Et aujourd'hui, elle va courir pour le macadam. C'est un objectif qu'on s'est mis, enfin, c'est surtout elle qui a voulu le mettre en place, mais qu'on, du coup, on fait ensemble. Et elle a perdu beaucoup de poids, c'était son objectif. Et un jour, elle m'a dit, elle qui, normalement, aime pas son physique et tout ça, elle m'a dit, Bertie, je me suis acheté un maillot de bain. Bah, j'aime bien comment je suis dedans.
Oui,
je pense que
pas.
Ça, c'est ouais, grand pas. Et en fait, il y a beaucoup des filles que j'accompagne ont, je pense, des histoires de vie un peu difficiles, même si on n'en parle pas forcément, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais il y en a qui, je sens, grâce au sport, arrivent à se révéler, arrivent à passer certaines difficultés, je pense, grâce à ça. Et puis, je pense forcément à Christelle, dont j'ai partagé le témoignage récemment, qui a quand même deux enfants jeunes, en bas âge, et qui est infirmière et qui fait des heures et des heures et des heures. Et qui, en fait, arrive à quand même aller 3 fois par semaine à la salle, s'entraîner dans l'intensité et avoir une alimentation correcte, en fait. Donc, des fois, on me dit « oui, mais j'ai pas le temps, j'arrive pas », tout ça. Et moi, je pense à Christelle, qui a ses 2 enfants en bas âge et qui travaille beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment ces 2 histoires-là qui me marquent le plus, même si toutes ont leurs aspects, leurs singularités. Et en fait, je suis assez fière de mes coachés, en fait.
C'est beau, ça.
Ouais. Ouais.
Non, effectivement, 2 très beaux témoignages. Quel est l'âge le plus jeune pour toi où on peut commencer à se dire « Allez, il faut que je fasse quelque chose pour prendre soin de moi, de mon corps ?»
Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se dire ça. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose de super. On peut l'utiliser d'une manière... très instructive, très efficace et très intéressante. Mmh. Et à côté de ça, ça peut créer des troubles chez des jeunes. Donc des jeunes qui se diraient « Oula, mais moi, je ne suis pas du tout comme cette fille alors qu'on a le même âge. » Mais ce n'est pas la vraie vie, en fait. Quand on va dans une... je ne sais pas, moi, on va faire une soirée, un concert, un truc, on regarde les gens autour de nous, personne ne ressemble aux réseaux sociaux, en fait. Et ça me fait peur, en fait, pour les générations qui arrivent, parce qu'en plus, ils sont encore plus connectés que nous. Mais par contre, je pense que d'un point de vue prendre soin de soi et aimer l'enveloppe dans laquelle on est, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi je me pose justement la question de changer de physique à cet âge-là ? Ou pourquoi mon enfant se posait la question à cet âge-là ? Est-ce qu'il y a des choses à côté qui ne fonctionnent pas ? Je ne sais pas.
Ouais, je comprends. Il n'y a pas d'âge limite ?
Non, je pense pas non plus. Honnêtement, je pense que l'important, c'est surtout de se sentir bien dans sa pratique, en fait. Il y a des gens que j'ai eu en coaching pour faire du renforcement en salle. Et au bout de 3 semaines, j'ai dit, mais t'aimes pas ça, en fait. Pourquoi tu continues d'y aller ? Bah, parce que c'est comme ça que je vais changer. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as envie de faire ? Du hockey sur gazon. Bah, va faire du hockey sur gazon. Mmh. Elle teste le hockey sur gazon, c'est toujours pas ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as envie de faire alors maintenant ? Bah, de la danse. Elle teste la danse et c'est ce qui lui va. Mmh. Je pars du principe que tant que l'objectif, c'est se sentir bien, faire bouger son corps Et juste être en forme, quoi, être en mouvement, bah, peu importe le sport. Si c'est pas avec moi, c'est pas avec moi, je m'en fiche. Mais il faut que la personne elle soit bien, tout simplement.
Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui vont aller s'épanouir avec du yoga, alors que d'autres, si on les met au yoga, ils vont s'endormir et ça va les lasser. J'imagine que pour la salle de musculation, on a les mêmes problématiques,
tout à
comme
fait.
On a les mêmes problématiques avec la danse, parce qu'on n'adhère pas tous à la même façon de bouger, clairement.
Oui.
Merci pour ce super témoignage.
Merci à toi.
C'était très intéressant. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Bertille, elle a son Instagram au nom de Brindilles de Folie. Est-ce que tu as un site internet?
Oui, au même nom, brindillesdefolie.com.
Et un autre moyen de te contacter?
On peut me contacter par mail, c'est brindillesdefolie@gmail.com. Et puis sur Instagram, je suis quand même assez présente, donc oui. Pas de souci.
Parfait. Eh bien, je te remercie et à bientôt.
À bientôt, Sophie.
Au revoir. Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.